Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Loyambi nengeli kere wongi Orbemba lele limono wongi Sogolwe mabi nengeli kere wongi Loyambi nengeli kere wongi Sorry, nigel ni beyo. Lo yes, bi wele ni kere wongi. Onge ba bi wele ni munu wongi.
Lo yes, iho. Inyo nyo ni nyo. Lo yes, iho. Iho ni mao.
Long yes mi nenge li kere wongi Papire din chomo ki kipi tong bimo Inge mwe mwa ki bi perne ni munu wongi Inyo be abi wel ni bezgi wongi Hata ngonge mle long Inge ni yo ki gi wong Mumye abi wel ni bezgi wongi
C'est une émission un peu particulière que nous allons vous proposer aujourd'hui. Nous allons parler d'un homme dont le franc-parler le conduira à la mort. Il s'appelait Ruben Umniobe. Il fut l'un des farouches partisans de l'indépendance du Cameroun, mais ses prises de position indisposaient les puissances coloniales de l'époque. Le 13 septembre 1958, il est abattu par les forces françaises au Cameroun. Il n'avait que 45 ans. Son épopée a captivé notre invité du jour, qui lui consacre un album entier. Blik Bassi, soyez le bienvenu.
Merci.
1958, c'est donc le titre de votre nouvel album, dont nous allons écouter quelques extraits durant notre conversation. Mais j'aimerais d'abord savoir quand et comment la figure d'Umniobe a fait irruption dans votre vie.
En fait, la première fois que j'ai entendu parler d'Umniobe, c'était lorsque j'étais à l'école et dans nos livres d'histoire, on parlait brièvement des terroristes qui ont été, pendant la période coloniale, qui ont troublé cette belle période. Et donc, ces terroristes, c'était Umniobe, Ernest Ouandier, Félix Moumier, qui sont devenus ce qu'on appelait les maquisards et qui, finalement, ont été tués dans la forêt. C'est comme ça que j'ai entendu parler la première fois d'Umniobe. Bien sûr, par la suite, je comprendrais bien que l'histoire a été écrite par ceux qui terrorisaient la population et donc que j'avais une version erronée de l'histoire. Après, dans mon adolescence, et puis lorsque j'étais au lycée, il y avait des versions complètement différentes de Umniobe, mais également lorsque dans les villages Bassa, les gens parlaient de l'UPC. Et l'UPC était le parti qui avait été dans lequel Umniobe était secrétaire général. Et donc, ces populations portaient fièrement et défendaient ce parti qui était le parti du Mporol, c'est-à-dire le surnom de Umniobe, celui qui porte la parole des siens. Et c'est de cette façon que je me suis rendu compte que... On peut pas dire que c'était un terroriste et la population porte fièrement et défend de manière légale ce parti qui était le premier parti au Cameroun et qui est devenu le premier parti d'opposition également. Et donc, tout cela m'a interpellé et m'a amené à revoir un peu l'histoire, sachant que ma mère m'en avait parlé déjà lorsque j'étais gamin, mais m'en avait parlé comme étant un conte, puisqu'elle nous racontait des contes. Et pour moi, c'était rentré dans la même catégorie que les différents contes qu'elle avait l'habitude de nous raconter. C'est plus tard que je me suis rendu compte que, en fait, elle avait passé un an et demi de son enfance dans la forêt avec mon grand-père, dormant d'un lieu à un autre, parce que elle venait d'un village voisin de celui de Umniobe pendant la période du maquis.
Il aura fallu attendre 1991 pour qu'un texte de loi réhabilite ce personnage central de l'histoire camerounaise. Comment présenteriez-vous Ruben Umniobe à la jeune génération qui n'a pas connu les indépendances et le combat citoyen de certains grands hommes ?
En fait, moi, au départ, quand je fais la démarche d'aller vers Oumiobé, d'aller voir quel personnage c'était et pourquoi il avait été tué, quel était son combat, j'ai appris à redécouvrir ce personnage. Et j'en suis tombé amoureux et avec énormément de respect parce que je me suis rendu compte que c'était... Il est décrit comme, bien sûr, quelqu'un qui se battait pour la libération du Cameroun. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'Oumiobé se battait pour les valeurs universelles et que, bien sûr, à partir du moment où on est dans cette démarche-là, l'asservissement n'a pas de sens, quoi. Oumiobé, en fait, j'ai appris à découvrir ses écrits durant le maquis, ce personnage, comment il défendait sa démarche. Parce que c'est quelqu'un qui, déjà, se battait pour l'égalité homme-femme dans les années 40, que c'est quelqu'un qui était syndicaliste, qui était professeur, qui a été travaillé en tant que greffier. Et il parcourait tous ces différents structures pour non seulement acquérir une connaissance, pour apprendre comment fonctionnait notre société, mais également, surtout, pour se battre pour les droits des uns et des autres, quoi.
Vous le disiez, il était syndicaliste, président de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, soutenu en France par la CGT, par le Parti communiste. Mmh. Il s'est rendu, non sans mal, à l'ONU, mmh, en 52, 53 et 54, avec l'aide justement du Parti communiste français. Et je vous propose d'écouter un court extrait de sa déclaration de 1952.
L'UPC a demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président.
C'était le 17 décembre 1952 à l'ONU. Ruben Uniobe exigeait l'indépendance du Cameroun devant une assemblée encore très rétive à l'idée d'octroyer la liberté à des populations africaines sous le joug du colonialisme. Blik Bassi, est-ce que votre album 1958 est un acte politique ?
Ben, comme disait Oumiobé, tout est politique, hein. C'est-à-dire la politique est dans tout et tout est dans la politique. Et donc, à partir du moment où j'aime dire que notre action ou notre inaction, de toute manière, a un impact dans la société, dans la cité dans laquelle on se trouve. Et à partir du moment où il y a un impact, en fait, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on contribue et on participe de manière négative ou positive à la gestion de la cité. Et donc, bref, tout ce que nous faisons est politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à un moment donné, on nous demande d'aller participer au vote et donc aux décisions. Hein, qu'on peut pas nous dire tout simplement que la politique est réservée à certains et que subitement, au moment du vote, on nous sollicite. C'est sur la base de quoi? Et donc, oui, pour moi, chaque action que nous menons est complètement connectée et agit de manière politique, quoi.
60 ans après l'assassinat de Ruben Uniobe, la leçon de l'histoire a-t-elle porté ses fruits ?
Ben non, parce que on voit bien que Uniobe se battait pour la liberté et l'indépendance totale du Cameroun. Et en face, la France a constitué une équipe pour combattre Uniobe à travers les Camerounais qui, eux, défendaient l'indépendance partielle, dont était membre Ahidjo qui était le premier président du Cameroun, et dans son équipe, il y avait Paul Biya, qui est le deuxième président actuel du Cameroun depuis lors. Et donc, et à partir du moment où nous sommes toujours gouvernés par ceux qui réclamaient l'indépendance partielle, ben, tout est dans la définition, quoi.
Est-ce que vous êtes confiant en l'avenir?
Oui, oui, absolument. Je pense que nos pays sont très jeunes. Ils ont à peine 60, une soixantaine d'années. En plus, nous n'avons même pas encore commencé à bâtir notre pays. Je pense que pour le moment, nous n'avons pas le pays. Nous vivons dans un espace qui a été appelé Cameroun et où les frontières ont été dessinées et à qui on a laissé une structure qui n'a rien à voir avec la réalité des gens, ni avec la réalité de l'écosystème, ni avec les aspirations des vivants dans cet espace. Donc, pour le moment, ces vivants, ces individus qui sont dans cet espace n'ont pas encore vraiment décidé de bâtir leur pays. Donc pour moi, pour le moment, tout est à faire et l'Afrique fera partie intégrante de ceux qui vont vraiment sauver notre société future, quoi.
Chaque fois que nous nous rencontrons, je sens cette fibre militante chez vous. Est-ce que vous avez envisagé de vous engager dans un mouvement politique, syndical ou citoyen ?
Je pense que les actions que nous menons au quotidien, moi, me suffisent parce que je suis impliqué dans pas mal d'actions que je mène ici sur le territoire français, mais également en Afrique. Et je pense que là, pour le moment, je mène des actions qui sont des actions qui ont un vrai impact également, tout simplement parce que je suis libre aussi de les porter comme je voudrais, avec des gens, bien sûr, avec qui je travaille. mais sans toutefois être rentré dans une espèce de lobby pour des intérêts de certains. Et moi, je me bats tout simplement à travailler pour l'intérêt commun et apporter, grâce à mon expérience, ma contribution.
Diriez-vous que la musique ou les mots, puisque vous avez écrit un roman, ont plus de pouvoir qu'une décision politique ?
Je pense que chaque action peut impacter notre quotidien, notre société, d'une manière ou d'une autre. Tout simplement, les mots peuvent déclencher, chez certains, c'est ce que j'essayais de faire aussi en rencontrant beaucoup de jeunes, à travers les mots, essayer de déclencher et dénouer des gens, parfois, de leur peur, de leur frustration, mais aussi, tout simplement, permettre à certains de pouvoir s'émanciper des barrières virtuel que nous propose la société et que nous acceptons souvent sans y être forcés, mais à force de recevoir des choses qui nous rappellent que on appartient à une communauté qui est inférieure à une autre, on appartient à une classe sociale qui est faite tout simplement pour être employable et n'est faite que pour travailler, produire et contribuer fortement au capitalisme sans toutefois y bénéficier. Moi, j'essaye tout simplement, à travers mes différentes actions, à travers la musique, à travers les mots, à travers l'écrit, de pouvoir aider, participer, amener les gens tout simplement à s'émanciper de ce monde matériel dans lequel nous vivons et qui, petit à petit, nous tue. Parce que, malheureusement, à cause de l'indécence et de l'arrogance de l'humain qui pense qu'il est le maître du monde, pourtant nous sommes un élément de la nature parmi tant d'autres et que c'est pas nous qui avons créé ce monde, c'est pas nous qui pouvons décider de où il va aller, mais que malheureusement notre impact causé par les intérêts matériels peuvent contribuer par contre à faire du mal.
Est-ce que le statut d'artiste est suffisant pour être entendu ?
Je pense qu'en tant qu'artiste, on nous pardonne beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'on nous pardonne le fait d'essayer d'être nous-mêmes. C'est-à-dire de nous émanciper des standards préétablis de la société, de parler d'une autre manière, de s'habiller d'une autre manière, de nous exprimer tout simplement de manière sincère, parce que la sincérité est rejetée. On n'aime pas ceux qui sont sincères, on trouve qu'ils sont bizarres, qu'ils sont étranges. Pourtant, chacun de nous sommes uniques, ils sont animés d'une envie particulière qui est tout simplement inhérente à ce que nous sommes réellement. Mais malheureusement, la société voudrait que nous soyons, nous nous ressemblons tous, que nous parlons de la même manière, que nous cachions notre part de sincérité qui est la base structurelle de chaque être humain. Et donc, en tant qu'artiste musicien en général, on nous pardonne un peu d'être sincère, quoi.
Chanter en bassa, c'est une revendication ?
C'est une revendication, mais c'est aussi un élan et un mouvement de sincérité. Parce qu'en général, lorsqu'on est face à un problème, à un obstacle, ou bien lorsqu'on est surpris, en général, quand notre réaction première, elle est sincère, quand on a peur, quand on est fâché, quand on est en colère, quand on est animé d'une émotion forte, on s'exprime en général par la première langue. Et donc là, il y a une sincérité. Quand on a l'expression de ces différentes émotions, on est sincère. Pour moi, être sincère, c'est aussi de chanter en bassa parce que c'est ma première langue, c'est la langue de ma construction mémorielle de base. Et donc, à partir de ce moment-là, il était important, si je voulais être sincère avec les gens, de commencer et de m'exprimer avec la langue qui, pour moi, est la langue qui me lie à ce que je suis réellement.
Que raconte Sangon Gando ?
Sangon Gando, c'est une chanson drôle parce que Sangon Gando, ça veut dire Monsieur Gando. Et dans cette chanson, je parle de M. Ngando, qui est quelqu'un qui est complètement accroché au matériel. Tous les jours, il ne pense qu'à bien s'habiller, qu'à sortir, qu'à aller boire de l'alcool. Et en fait, c'est quelqu'un qui, à travers cela, exprime le manque de culture, le manque de connexion à sa terre, à ses traditions, à sa culture. Et donc, pour pouvoir survivre de ce manque-là, il exprime en buvant, en dansant, en s'habillant, en achetant plein de fringues, en jouant le beau, quoi.
Écoutons ce titre fort mélodieux, extrait de votre nouvel album 1958.
Sangon Gando, banga mannequin, ave alon bandi man por ma herie, aporon kana. Pam, pam.
Bassi chante en bassa, l'une des 250 langues du Cameroun. Parlons de votre musicalité épurée, Blik Bassi. Est-ce que c'est un choix artistique ou l'expression de votre identité culturelle?
C'est l'expression de mon identité actuelle. En fait, je me suis rendu compte ces dernières années que nous étions submergés par un flot d'informations quotidien avec l'arrivée des réseaux sociaux, des outils de nouvelles technologies. Nous sommes désormais vraiment saturés d'informations et je me suis dit, pour pouvoir parler directement aux gens, au cœur des gens, il me fallait peut-être m'émanciper dans ma construction musicale aussi de beaucoup de choses et aller à l'essentiel. Et aller à l'essentiel pour moi était d'avoir comme vecteur principal ma voix, mon émotion, accompagnée par quelques instruments qui pour moi étaient essentiels pour la meilleure mise en valeur de mon information principale qui était la voix.
L'un de vos héros s'appelle Skip James. Il fut un bluesman aussi important que Robert Johnson aux États-Unis dans les années 30, redécouvert à l'aube des années 60 et dont le jeu très acoustique l'inscrit dans le cercle très fermé des pionniers du blues. Qu'est-ce qui vous touche dans sa sonorité?
Ben, c'est d'abord l'émotion. La première fois que j'ai entendu Skip James, je pensais qu'il chantait en une langue africaine. Parce que, en fait, il m'a renvoyé également, à travers son émotion, sa voix, sa manière d'attaquer les mots. Il m'a renvoyé à mon enfance, lorsque j'étais au village chez un oncle chez qui j'avais passé quelques années. Il y avait un vieux monsieur qu'on appelait Morilon qui faisait le tour du village avec sa guitare et qui chantait des petites chansons de blues et qui racontait les histoires de ces différents villages. Et la première fois que j'ai entendu Skip James, il m'a renvoyé vraiment fortement à cela et son approche aussi de la musique où c'est juste une guitare et une voix à travers laquelle on peut tout entendre, on peut tout ressentir. Et il m'a bouleversé, mais également son parcours de vie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a écrit d'incroyables chansons, qui a été obligé à un moment donné de laisser tomber la musique pour se mettre dans les travaux, par exemple de construction de routes, ainsi de suite, et qui n'a été reconnu que quelques années avant sa mort, quoi. Et cela m'a renvoyé aussi à l'actualité du quotidien de l'artiste musicien aujourd'hui, hein, parce qu'on voit bien que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, avec l'arrivée des nouvelles technologies, la disparition du CD, la transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que je pense que notre société est en pleine transition, et cette transition, bien sûr, fait disparaître beaucoup de choses et fait apparaître de nouvelles choses. Et en général, chaque transition impacte le quotidien des humains d'une manière, si on ne s'y attend pas, parfois la gestion est compliquée. Et je pense que beaucoup d'artistes musiciens aujourd'hui, justement, vivent des moments très compliqués causés par cette transition qui peut-être nous réserve des choses positives, quoi.
Je sais que vous êtes aussi très respectueux de gens comme Fela Kuti, Bob Marley, Marvin Gaye. Mais ce qu'on entend d'abord chez vous, c'est le blues. L'histoire de Ruben Niobe nécessitait cette couleur blues dans votre interprétation?
Oui, c'est possible, mais je pense également que le blues, c'est aussi parfois une description d'une réalité d'une société. Et peut-être que le fait que je sois déjà, que mon quotidien soit déjà animé du blues, fait que toute histoire que je peux raconter peut être entendue avec quelques accents de blues autour d'elle, quoi.
Est-ce que 1958 est un album sombre à vos yeux?
Non, pour moi, 1958 est un album d'avenir. C'est un album qui célèbre Oumiobé, mais également qui rappelle l'importance pour nos différentes communautés françaises et camerounaises, l'urgence de se regarder dans les yeux et d'être sincère. Parce que pour moi, il s'agit toujours de sincérité, de dire que nous avons une histoire commune et comment est-ce que nous pouvons construire l'avenir ensemble. Et ça ne peut se faire que dans la sincérité. Et parlant de sincérité, oblige les uns et les autres à parler des choses, des douleurs qu'on a connues ensemble, de ne pas continuer à dire que la colonisation était positive, et reconnaître. Je sais bien que chaque nation est complètement animée par l'envie de construire un storytelling positif afin de participer à la construction positive des imaginaires de ses citoyens. Mais je pense également qu'il est vraiment important pour le vivre ensemble entre nos différentes nations de revenir sur ce qui s'est passé et de reconnaître ce qui s'est passé pour que nos relations puissent repartir sur des bases saines, sincères et pouvoir bâtir un avenir commun.
Le constat que vous dressez sur chaque titre n'est pas très reluisant. Vous parlez d'ignorance, de rendre des comptes, de démasquer les traîtres, d'arrêter de chicaner. Ouais. C'est peu encourageant tout de même.
Mais en fait, j'essaie tout simplement de pointer du doigt tous les éléments qui empêchent la machine de bien fonctionner. Parce qu'on ne peut pas faire comme si tout allait bien quand on a une machine qui fonctionne mal et elle crée des douleurs, elle crée de la pauvreté et donc continuer à faire comme si la machine roulait très très bien. Donc moi, la chance que j'ai, c'est d'avoir une scène, c'est d'avoir une tribune. Et donc mon rôle est aussi d'essayer de rappeler qu'attention, ces différents éléments empêchent la machine de bien fonctionner parce que mon intérêt à moi et à tout le monde est que la machine fonctionne bien parce que c'est ça qui pourra un jour faire que nous vivions dans des espaces où 90% des gens vivent, s'épanouissent, quoi.
Le dernier titre de votre album est partiellement interprété en anglais. C'est Where We Go, où nous allons. C'est une interrogation, une inquiétude, un espoir?
Oui, c'est un espoir et une interrogation. Quand je me demande où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous avons décidé vraiment de prendre comme chemin, quel est le chemin qui est réellement le nôtre. Et oui, je pense que cette interrogation me renvoie aussi à l'urgence de faire un bilan, parce que je me rends compte que depuis la décolonisation officielle, il n'y a jusqu'ici jamais eu de bilan, c'est-à-dire nos pays ne sont pas arrêtés pour dire « Ok, finalement, est-ce que la base structurelle qui nous a été léguée, à partir de laquelle est construit notre modèle éducatif, politique, économique, de développement. Est-ce que ce sont ces notions-là qui s'appliqueraient à notre environnement? Parce que notre environnement nous impose une réalité. Est-ce qu'elles sont adaptées à notre vision, à nos paradigmes, à tout ce que nous voulons construire? C'est pas possible de ne pas s'arrêter et faire un bilan. Et malheureusement, le cas aujourd'hui, c'est que nous n'avons presque jamais fait un bilan et nous continuons à courir dans le couloir dans lequel on a été jeté sans notre avis. Et donc, essayons de rendre compte à quelques structures comme le FMI, la Banque mondiale, qui ont été faites sans notre consentement. On n'était pas sur la table de négociation. Et en général, on sait que celui qui rédige le contrat le fait pour ses intérêts d'abord. Comment est-ce qu'on continue à adhérer à tout ça sans se poser des questions, sans se dire, mais est-ce que finalement, le modèle de développement occidental ou américain, ou je ne sais pas, est-ce qu'il correspond vraiment à ce que nous voulons aller? Parce qu'il est anormal pour moi qu'un enfant, qu'un jeune qui est propriétaire de terre en Ngaoundéré ou à Bodmakak décide d'aller mourir en Méditerranée parce qu'il pense qu'être propriétaire terrien en France est mieux que l'être au Cameroun. C'est à nous de redonner de la valeur à ce que nous portons. Et pour cela, il faut qu'il y ait un bilan et qu'on se pose la question de savoir est-ce que ce qu'on nous a légué correspond réellement à ce que nous voulons devenir.
Ce que vous dites là, c'est faire la révolution?
Oui, faire la révolution à travers des actes de réflexion quotidienne et à travers une mise à jour des différents processus dans lesquels nous avons été imbriqués. Et cette révolution, elle est tout simplement une révolution intelligente, quoi, qui nous permet tout simplement de réajuster et de choisir parmi les éléments qui nous ont été légués. Est-ce que ceci ou cela correspondent à ce que nous sommes? Quels sont ceux qui n'ont rien à voir avec où nous voulons aller, avec nos différents projets? Et faire le choix et puis complètement reconstruire un chemin qui correspond à la réalité, quoi.
Donc vous êtes un révolutionnaire?
Peut-être, oui.
Écoutons ce titre qui clôt votre album 1958. Voici Where We Go. Babylon, my cause.
Angel Bablo Kwakos. Where we decide to go.
Where We Go, extrait de 1958, le dernier album de Blik Bassi. Par définition, la radio transmet des sons, mais si vous voulez voir de très belles images extraites de cet album, je vous conseille de regarder le clip de Mgwa. Où a été tournée cette vidéo et quelle était l'intention?
La vidéo a été tournée à Olesoto. En fait, quand on a pensé à faire ce premier clip, j'ai tout de suite pensé à ce pays que j'avais déjà visité auparavant et que j'aime beaucoup.
Qui est une enclave en Afrique du Sud.
Absolument. Et qui est d'une beauté exceptionnelle, mais également parce que, pour moi, le Lesotho représente socialement le modèle, peut-être, qui pourrait être le modèle futur de l'Afrique. C'est-à-dire, on a l'impression que on avait la ville dans le village, inversement, quoi. Et je trouve ça super beau parce que on sent vraiment une réelle présence des traditions africaines, bien que modernes et tout. Et il se trouve que le réalisateur, Tebogo Malope, également avait pensé à le faire au Lesotho, quoi, ce qui était génial. Et donc, dans ce clip, j'essaie tout simplement de représenter les symboliques du combat de Oumiobé, quelques symboles de leur combat, lui et ses différents collègues, et puis les symboles de notre lien avec la nature, avec notre société, parce que j'aime rappeler vraiment que nous sommes qu'un élément parmi d'autres de la nature.
Il y a la symbolique de l'arbre qui renaît sur votre corps.
Exactement.
Parlons d'avenir, Blik Bassi, vous serez bientôt de retour en France pour quelques concerts. À quoi ressembleront-ils? Est-ce que vous allez proposer un concert conversation comme vous l'aviez fait lors du festival Africolor en décembre dernier?
Non, là, le nouveau spectacle, tout simplement, vraiment tourné autour de la musique, mais également autour de la thématique, puisque l'album est dédié à Oumiobé. Mais donc, voilà, il y aura des moments très, très forts visuellement. Et puis, les discours que j'aurai également entre les chansons. Puis, bien sûr, l'interprétation qui est particulière et ce que j'apprécie énormément, le live, parce que justement, tout est vivant et le spectacle sera, je pense, vraiment très, très fort. Et comme pour moi, c'est un album spécial parce que dédié à un de mes héros, sur scène aussi, je le solliciterai pour qu'il participe à la fête, quoi.
Est-ce que ça sera un spectacle interactif?
De toute manière, pour moi, chaque spectacle interactif, dans le sens où je pars toujours des énergies des uns et des autres. C'est-à-dire, les gens participent sans le savoir. Moi, j'essaye de produire et de donner tout ce que je donne et à chaque fois partie de ce qu'ils me donnent, de leur énergie, de leur vibration. Et la chance que nous avons, nous, les artistes, c'est que le public nous prête son cerveau, sa mémoire, son imaginaire et nous permet d'en faire presque tout ce qu'on veut. Et donc, oui, il y a une interactivité incroyable parce que chaque spectacle est différent. Parce que ça dépend de ce que je reçois du public aussi. Hein. Ce que je donne dépend vraiment de ce que le public me donne aussi.
En tout cas, vous serez le 15 avril à Paris à La Cigale et le 20 avril au Printemps de Bourges dans le centre de la France. Merci Blik Bassi d'être passé nous voir et félicitations pour ce travail patrimonial.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Comment on dit merci en bassa? Vous me l'aviez dit la dernière fois, j'ai oublié entre-temps.
Mirangandak, merci beaucoup.
Voilà, je ne le répéterai pas, je suis incapable de le faire. Si vous nous écoutez en Afrique du Sud, je vous rappelle que le festival jazz de Cape Town débute le 29 mars prochain avec au programme Chaka Khan, Richard Bona, le Soweto Gospel Choir pour ne citer que, et ce sera la 20e édition de ce rendez-vous jazz international. Vous voilà prévenus. Et n'oubliez pas Banlieue Bleue en Seine-Saint-Denis près de Paris qui accueille jusqu'au 19 avril quelques personnalités de l'épopée des musiques noires dont Bassekou Kouyaté, Oumou Sangaré, Salif Keïta, Bonga et beaucoup d'autres. Toutes les infos sur banlieuebleue.com. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation de cette épopée militante. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.